Bonsoir. Alors, je vais rester sur le même texte, mais je vais m'appuyer sur le verset 14. Je vais le lire. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Alors, dans le texte que nous avons lu, Tite 2, depuis le verset 11 jusqu'au verset 14, ce qu'on peut remarquer, les versets qui précèdent celui-ci que je viens de lire, nous donnent des indications sur ce que cela veut dire un peuple qui lui appartienne. C'est-à-dire, c'est un peuple qui, comme on l'a lu précédemment, se détourne de tout mépris de Dieu, qui rejette les passions des gens de ce monde, un peuple qui mène une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, un peuple qui est dans l'attente du retour de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car notre espérance, elle n'est pas dans ce monde, mais elle est dans la vie à venir. Alors, je voudrais, avec vous, essayer de comprendre plus profondément, à la lumière des Écritures, ce que veut dire appartenir à Christ. Christophe nous en a déjà dit quelques mots, mais je voudrais encore aller plus loin. Et comment vivre cette appartenance? Alors, une petite définition du mot appartenir, ça vient du grec periusos, ce qui est son propre bien, appartenant à ses possessions. Nous sommes un peuple choisi par Dieu, je vais dire, parmi les nations pour sa propre possession. Alors, nous qui avons donné notre vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ceux qui voudraient la lui donner, donc des croyants, chrétiens, peuple de Dieu, église du Dieu vivant, nous sommes son propre bien, un peuple choisi par Dieu pour sa propre possession. C'est-à-dire que nous ne nous appartenons plus, mais nous lui appartenons. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, dit « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. » L'apôtre Paul, même pour souligner fortement cette notion d'appartenance, emploie quelquefois le terme « esclave de Christ ». Et bien sûr que cela nous parle de soumission et d'obéissance au Maître. Cette soumission, cette obéissance à Jésus-Christ, elle est volontaire, motivée par l'amour, volonté de lui plaire, au-delà de nos sentiments, de faire ce qui est bien, selon son cœur, sa volonté, sa parole. En donnant notre vie à Dieu par Jésus-Christ, Dieu, par son Esprit, fait de nous ses enfants, ses fils et ses filles, et son ambition en tant que notre Père céleste, c'est de nous amener à la ressemblance de Christ. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, a dit, nous lisons dans Marc 10 au verset 45, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Je voudrais relever ce point. Jésus est venu pour servir. Servir Dieu, son Père, Dieu notre Père, servir le prochain, C'est une vie de consécration, dédiée à Dieu, son Père. Qui peut nous montrer au mieux à quoi ressemble cette vie où l'on appartient à Dieu? Cette vie de consécration, dédiée à Dieu, c'est Jésus. Il est notre exemple. Jésus a dit dans sa prière au Père, au sujet de ses disciples, dans cette prière sacerdotale, Jean 17, verset 16 au verset 19, « Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Jésus s'est consacré lui-même à Dieu pour nous, afin qu'aujourd'hui, Jésus vivant dans nos cœurs, nous puissions vivre par le Saint-Esprit cette même vie de consécration. Consacré à Dieu par la vérité. Jésus est la vérité. Il est la parole vivante. Et l'Esprit de Dieu nous donne de vivre, de mettre en pratique cette parole qui est la vérité, qui nous consacre, qui nous donne de vivre pour Dieu. Je voudrais avec vous regarder un autre passage qui se situe dans la lettre aux Éphésiens. Chapitre 4, verset 20 au verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Tout à l'heure, Christophe nous parlait de nous renier, renier nous-mêmes, renoncer. Voilà, cela consiste à nous débarrasser, à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Cette vie juste et sainte que produit la vérité, c'est cette vie d'appartenance à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus? Cela consiste à quoi? Tout d'abord, à nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que nous étions autrefois. Le croyant est un homme nouveau. Il a été régénéré lors de sa conversion. Et ça, c'est le changement capital et important de ce renouvellement. Mais il faut dire que l'homme nouveau apporte dans sa vie nouvelle des habitudes de l'homme qu'il était autrefois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre propre vie, mais dans la mienne, je l'ai remarqué. Étant cet homme nouveau. Donc, nous sommes appelés à nous débarrasser. Comme on l'a lu au début de cette lecture dans Tite 2, se détourner de tout mépris de Dieu, rejeter les passions des gens de ce monde. Souvent l'apôtre Paul aussi emploie cette image de se dévêtir du vieil homme. Alors, on est toujours sur ce point, à quoi consiste, hein? Qu'est-ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus? Cela consiste à quoi? Cela consiste donc à nous débarrasser et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente notre pensée. Proverbe 23, verset 7 nous dit « Il est tel que sont les pensées de son âme. Tel je pense, tel je suis. » Donc, c'est pour ça que nous sommes appelés à être renouvelés par le changement de ce qui oriente notre pensée. Que notre manière de penser change. Que notre pensée s'aligne sur la pensée du Christ. Le troisième point, revêtir l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Alors, ce que nous venons de partager ensemble, c'est un processus. C'est un processus que je viens de décrire. Et je dirais, je pourrais le résumer en un mot, la repentance. La repentance. C'est tout le processus que l'on trouve dans la repentance et que plusieurs d'entre nous avons expérimenté. C'est-à-dire, je me détourne d'une manière de penser et de me comporter qui déshonore Dieu pour me tourner vers une manière de penser et de me comporter qui glorifie Dieu. Marcher en nouveauté de vie, une vie juste et sainte, produite par la vérité. La vérité, elle éclaire mon cœur. La parole de Dieu éclaire mon cœur, mon intelligence, ma pensée, et me permet ainsi de voir les pensées qui ne glorifient pas Dieu, les mensonges, les mauvais désirs, les fausses croyances, toutes ces choses qui m'amènent à agir à la manière de l'homme livré à lui-même. Alors, étant éclairés, nous pouvons les dénoncer, ces choses-là. Nous pouvons les refuser, les rejeter, nous en débarrasser en demandant pardon à Dieu pour notre péché et confessant la vérité, accueillant la transformation que l'Esprit opère, nous revêtons ainsi l'homme nouveau pour vivre d'une manière juste et sainte. Jésus le dit d'une autre façon. Je crois que Christophe l'a cité, Marc 8, verset 34. Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pour suivre Jésus, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes et à nous charger de notre croix. Alors, comment comprend-on ce verset? En tout cas, comment je le comprends, ce verset? Nous sommes appelés à marcher sur cette terre en étant au bénéfice de ce que Jésus a accompli à la croix. Il a tout accompli. Et nous sommes au bénéfice de cette œuvre qui est extraordinaire. C'est-à-dire, nous sommes appelés à vivre cette conformité dans la mort de Jésus-Christ. Le vieil homme, livré à lui-même, est mort. Il est bel et bien mort. Il a été enseveli dans ce baptême de la mort de Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché, morts à ce monde, à l'esprit de ce monde, au vieil homme. Et vivre cette conformité dans sa résurrection, c'est-à-dire vivre en nouveauté de vie. Que l'homme nouveau que je suis, que nous sommes, unis à Jésus-Christ, puisse pleinement vivre sur cette terre, animé de l'Esprit de Dieu, vivant une vie juste et sainte, produite par la vérité, une vie d'appartenance à Jésus-Christ. J'arrive à ma conclusion. C'est un commentaire que j'ai lu d'un pasteur suisse, Martin Heuger, je ne sais pas si je le prononce correctement le nom, sur le réformateur Jean Calvin. Et je le cite. La ligne directrice de la spiritualité de Jean Calvin, c'est « Nous ne nous appartenons pas ». Comment vivre celui qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu comment vivra celui qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu et qui a répondu par l'offrande de son cœur? Il ne vivra plus pour lui-même, mais pour Dieu. Alors si l'axe de la spiritualité de Calvin est de répondre à l'amour divin, sa ligne directrice est de ne plus s'appartenir soi-même, mais à Dieu. Elle consiste à ne plus faire sa propre volonté, mais celle de Dieu. Une affirmation vraiment forte dans notre culture moderne qui magnifie la liberté et l'indépendance. Comment la comprendre ? Je voudrais citer l'ensemble du texte, donc dans l'Institution chrétienne. Je la cite dans la nouvelle édition en français moderne. Nous ne nous appartenons pas, que notre raison et notre volonté ne dominent pas dans nos réflexions et nos décisions. Nous ne nous appartenons pas, n'ayons pas pour objectif ce qui nous plaît selon la chair. Nous ne nous appartenons pas, oublions-nous nous-mêmes autant que possible, ainsi que tout ce qui nous entoure. Au contraire, nous sommes au Seigneur. Que sa volonté et sa sagesse dirigent nos actions. Nous sommes au Seigneur. Que tous les aspects de notre vie soient orientés vers lui, comme étant notre unique objectif. Oh, que de bienfaits a reçu la personne qui, sachant qu'elle ne s'appartient pas, a renoncé à l'autonomie et à la domination de sa propre raison pour les remettre à Dieu. Car la satisfaction d'être maître à bord est la pire peste qui puisse atteindre les êtres humains pour les perdre et les couler. Aussi, l'unique havre de salut est-il de ne pas être sage à ses propres yeux, de ne rien attendre de soi, mais seulement de suivre le Seigneur. Et je termine par cette phrase que Jésus a dite à Pierre, justement quand il a restauré Pierre dans son ministère. Toi, suis-moi. Amen.